le concept de femme de ta vie, en vrai, existe pour moi.
Moi, je sais que ma vie sexuelle s'est totalement libérée au moment où, en fait, je me suis dit, mais en fait, gros, t'es con de penser comme ça.
Les hommes sont plus facilement conditionnés à penser qu'ils sont moins sensibles que les femmes. Et du coup, ils se convainquent eux-mêmes d'être moins sensibles que les femmes.
Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Melting Pot. Donc, Pauline nous a proposé à tous les quatre de venir pour parler des relations entre les garçons et les filles. Donc, elle a proposé sur la story HDEP de poser des questions, mais on va y répondre aujourd'hui. Donc, on est avec Romain.
Bonjour.
On est avec Tom.
Bonjour à tous.
Et Mika.
Bonjour à tous.
Donc, on n'est pas dans l'heure des pros, on va répondre à des questions. et on est là sur invitation de Pauline, on tient à préciser. Donc, on va répondre aux questions le mieux possible. Donc, première question, les gars, croyez-vous en l'amitié fille-garçon ?
Comment ça ?
Non, moi j'ai une théorie là-dessus, mais j'en parlerai plus en détail lors de ma conférence à Boston. Je vous laisse commencer.
Alors, pour ma part, oui, totalement. Parce que bah, déjà, j'ai une meilleure pote et je sais très bien que jamais de la vie il se passera quelque chose. Et c'est genre de l'amitié. Genre. Même si je la trouve jolie en soi, j'ai pas du tout envie de faire quoi que ce soit avec elle. Donc, oui, j'y crois.
Est-ce que t'es sûr qu'elle pense la même chose ?
Bah oui, parce qu'elle est en couple.
Et c'est là que
tu. Ah. Ça veut rien dire.
Bah pour moi si, c'est-à-dire qu'elle était en couple, elle était plus en couple, on s'est vu dans tous les cas de figure. On était potes dans tous les cas de figure de nos deux côtés. Donc pour moi si.
Ok Mika, explose-nous ta théorie.
ma théorie c'est que ça n'existait pas vraiment. Et que bah en fait généralement tes potes meufs, c'est soit que bah elles t'attirent pas forcément physiquement, et que si du coup elles t'attirent physiquement et que du coup bah il y a le feeling. La seule chose qui manque, c'est du coup le contexte. Donc soit elle est en couple, soit toi t'es en couple, soit c'est l'ex de ton pote, soit il y a toujours un truc, mais genre dans le bon contexte, pour moi genre ça n'existe pas.
Tom, tu adhères ?
Non, moi je pense que ça existe, mais je suis quand même assez d'accord avec Mika, c'est qu'à mon avis, pour avoir une vraie amitié fille-garçon, il faut quand même poser des bases hyper saines dès le début de la relation, et voir si les deux personnes veulent la même chose, et veulent vraiment de l'amitié, et que comme ça va permettre d'éviter totalement... certaines dérives qui peuvent arriver exactement si le contexte se réunit, comme pour reprendre tes termes.
Pour rajouter, je suis d'accord avec toi dans le sens où en vrai cette amitié a commencé alors qu'elle était en couple, mais je n'ai jamais eu ne serait-ce que l'envie de faire quoi que ce soit avec elle, et même quand elle était plus en couple ça n'a pas changé. Donc je pense que bah, mais, bon, ça, c'est rare mais ça peut exister pour moi.
Mais elle était en couple avec ton pote à la base ou pas?
Non, c'était en deuxième année en prépa.
Tu peux briser le brocode?
Donc, non. Enfin, un brocode, c'est genre, tu sors avec la meuf, l'ex de ton pote.
Ouais, c'est ça.
Bah, en vrai, non. Non, si c'est vraiment mon pote, non, c'est mort.
Et vous ?
Moi, non. Moi, 100% non. En vrai, il y a assez de femmes dans le monde pour ne pas prendre l'ex de ses potes, en vrai, je trouve.
Ouais, on est d'accord.
Moi, je suis d'accord.
En vrai, non.
En vrai, le brocode, ça se brise pas, surtout qu'après... En vrai, la balance amitié-amour qui va durer très peu de temps, ça vaut pas le coup, quoi.
Question suivante. Qu'est-ce qui est le plus attirant ou repoussant chez une femme ? On va commencer par ce qui est le plus attirant.
Le charme, 100%. Genre ce qu'elle dégage. Même pas de beauté pure, parce que des fois, beauté pure, il n'y a rien derrière.
Est-ce qu'il y en a un qui serait moins poétique ?
Allez, Mika.
Non. Non, en vrai, moi, je dirais les yeux. En vrai, je sais que les beaux yeux, je trouve ça incroyable. Les beaux yeux, en vrai.
La fenêtre de l'âme et tout ça, ouais.
C'est ça, exactement.
C'est ça, exactement.
Et toi, Tom ?
Moi, je pense que c'est la classe que j'aime le plus chez une meuf. C'est le genre de meuf, tu la vois rentrer dans une pièce et puis tout le monde se retourne vers elle. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ah ouais, ok, cette meuf-là...
T'aimes qu'on se retourne sur ta meuf ?
J'adore.
Vous partagez ce point de vue ?
Moi moins, mais...
Ouais, on n'est pas forcément d'accord, donc je sais pas.
Moi un peu moins.
Mais ça, après, pour moi, c'est presque plus du charisme de la meuf que de la classe. Genre. Enfin, là, je sais pas, la classe, j'associe plus à une manière de se saper ou... Enfin, que tout le monde se retourne sur une meuf avec les yeux quand elle rentre, c'est plus, ouais, une forme de charisme, j'ai l'impression.
Non, je sais pas, il y a évidemment la manière de se saper, mais t'as aussi la façon d'être, ce que tu dégages, etc., qui rentre dans la classe pour moi.
Et du coup, on n'a pas répondu à la question, ce que vous trouvez repoussant chez une femme.
En vrai, ça peut être des petits détails, j'en sais rien. Moi, il y a des rires qui me rendent fou. Genre, c'est juste un red flag. T'entends le rire, une meuf rire et c'est juste, tu dis non, c'est mort, genre. J'ai envie de la vie. Mais à part des petits trucs comme ça, je vois pas trop.
Moi, je sais que j'aime pas trop les gens agités, genre. Les gens qui font genre trop de bruit tout le temps, genre qui sont incapables d'être calmes, ça je sais que ça me repousse vraiment. Mais en dehors de ça, en vrai, pas forcément grand chose.
Et les gens qui attirent l'attention quand tu rentres dans une pièce, du coup, toi ça te plaît pas, j'ai l'impression.
Bah, en fait, tout dépend de si la personne veut attirer l'attention ou pas. Ouais. Si elle attire l'attention parce que simplement, bah, comme tu as dit, elle est charismatique et que les gens la regardent, pourquoi pas. Mais si dès qu'elle rentre dans une salle, il faut absolument que tout le monde la regarde, ouais, il faut absolument que tout le monde soit sur elle. Là, pour le coup, ça me repousse plus qu'autre chose.
Ouais, c'est ça, mais quand je t'ai parlé de classe tout à l'heure, c'est justement attirer l'attention malgré toi, en fait.
Ouais.
Ça se tient.
Et toi, Tom, ton red flag ?
Mon gros red flag, j'en sais rien. En vrai de vrai, c'est le genre de meuf qui te parle par message de fou, et puis après qui te ghost, et puis après qui revient, etc. Genre elle joue un peu avec tes nerfs, etc. Mon peu red flag.
Ok. Est-ce que pour vous, le mec doit toujours faire le premier pas ?
Non.
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 Appréciable même quand t'as pas besoin de le faire. Alors,
ouais. Oui.
C'est même plutôt quelque chose d'attirant ?
Bah, tout dépend du contexte, etc. Enfin, c'est comme pour les meufs, il y a un mec relou qui va faire le premier pas, c'est pas très attirant, mais il y a une meuf cool que tu sais que t'aimes plutôt bien, qui fait le premier pas vers toi, bah, tu te dis, ah bah c'est cool pour une fois, c'est pas à nous de le faire forcément, quoi.
Mmh, je suis d'accord.
Ouais, dans 90% des cas, c'est juste, pour une fois, je fais pas le boulot.
99.
Est-ce une mauvaise chose si une femme vous dit qu'elle veut pas de sérieux?
Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'au contraire, si elle est claire dès le début, c'est pas une mauvaise chose. Après, si toi, t'en veux pas non plus, bah, tant mieux. Si tu veux du sérieux, bah, tant mieux aussi. Comment t'es fixé et tu peux pas te faire espoir. Mais je trouve que quoi que tu veuilles, tant que tu le dis dès le début, en vrai, c'est pas une mauvaise chose.
Ouais. J'adhère.
Première fois à tout prix ou attendre la bonne? Bon, ça, je pense que c'est une question un peu désuète pour vous, mais.
Pourquoi désuète?
Bah, ça me paraît important d'attendre la bonne.
Moi, ouais, je suis d'accord.
Bah, pareil,
en vrai. Ouais. En vrai, c'est. Pour le coup, c'est une défaut où tu t'en souviendras tout le temps. Donc, le faire à tout prix pour le faire, ça n'a aucun sens, je pense.
Mmh, je suis d'accord.
Il ne faut pas la regretter non plus la première fois. En vrai, c'est un moment important dans ta vie et tout. Même si en vrai, en général, c'est pas ouf. C'est quand même un moment hyper important dans ta vie. Il faut s'en souvenir avec un bon souvenir, je trouve.
Ouais, surtout qu'à tout prix, ça veut dire que tu es vraiment prêt à prendre n'importe qui. T'as vraiment aucun standard. Donc en vrai... À quoi bon de savoir dire aux gens, ok, je l'ai fait, ok, blablabla, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Mmh. Donc en vrai, l'important, c'est juste toi. Donc
vous, votre première fois, ça a été plutôt un bon souvenir? En tout cas, vous le regrettez?
Ouais, pas. Super souvenir.
Vous vous êtes pas sur la première vue. 35 minutes.
Franchement, pas très long, mais très bon souvenir.
Au vu de l'éducation que vous avez reçue, si vous êtes père, que comptez-vous faire différemment de vos parents?
Ah putain,
oh, le changement de...
elle est bien celle-là. Ouais, le changement de niveau des questions.
Moi j'aurais dit bah, déjà beaucoup plus parler des sujets qui les touchent eux quand ils sont ados ou quoi, avec eux, genre sans tabou.
Tu aurais aimé que ton père te conseille pour ta première fois?
Alors, je parle pas de conseils aussi concrets, mais je sais pas, juste avoir des discussions normales sur le sujet, genre. Parce que. Enfin, moi, avec mes darons, c'était pas... En gros, ça en parle pas. Et du coup, ça crée, même sans le vouloir, une sorte de barrière invisible, en mode, bah, t'en parles pas, j'en parle pas, et personne n'en parle. Et du coup, juste ce sujet ne revient jamais, donc c'est pas... Enfin, moi, je trouve ça pas ouf. Donc, je changerais ça, sinon...
Tu briseras la glace, quoi.
Ouais.
Quand est-ce que t'aurais aimé qu'il brise la glace?
Je sais pas, au début du lycée, j'en sais rien, mais juste avoir des conversations normales là-dessus, genre.
Mais là-dessus, c'est à propos de quoi?
Bah sur genre tout ce qui est autour des meufs, le sexe.
Ah ok.
Genre je sais pas. Ouais.
Ouais non, c'est vrai qu'on globalement on en parle pas beaucoup.
Ouais. Ouais c'est ça. Et je vois des potes où c'est un peu différent et tout, et je me dis en vrai je pense que c'est mieux.
Moi franchement je changerais pas grand chose.
Je pense parfait.
Non mais en vrai, genre je trouve qu'ils ont assez bien fait le taf. Genre enfin après c'est hyper dur d'élever un gosse, etc. Mais franchement. Au vu du nombre de gosses qu'ils ont eu et du taf qu'ils ont fait, je trouve qu'en vrai, ils ont assez bien géré ça. En vrai, je n'ai pas d'éléments évidents que je changerais a priori.
Moi, je pense que je pousserais plus mes enfants à faire vraiment ce qu'ils kiffent dans la vie. Parce qu'en vrai, il y a toujours la barrière sociale de
bah, en fait, j'aimerais faire ça, mais c'est pas forcément super bien vu par la société, etc. Et bah, là, j'ai la possibilité de faire ça, qui par contre, ça, c'est super reconnu par la société. Et donc, bah, j'aimerais bien pousser mes enfants, si par exemple, je sais pas, ils veulent devenir pilote de Formule 1, c'est une bêtise, mais pilote de Formule 1, et que, bah, en même temps, il a des super bonnes notes à l'école, je vais pas forcément lui dire, ah bah, c'est dommage, tu gâches ton potentiel à faire pilote de Formule 1, alors que tu pourrais faire, je sais pas, tu pourrais faire, je sais pas, par exemple.
On rappelle que Tom sort régulièrement de très bonnes musiques.
Merci.
Faites ça promo, faites ça promo.
Donc quoi, c'est pas incompatible.
Allez streamer. Non, c'est pas incompatible, mais allez streamer quand même.
Considérez-vous comme positive l'influence du campus sur votre identité, si tant est que le campus ait eu une influence sur votre identité, évidemment.
Putain, c'est chaud quand même.
Bah, forcément, moi je sais que j'adapte souvent mon comportement aux gens qui m'entourent, donc forcément il y a eu un changement. Après, je sais pas si c'est dans l'identité en soi, mais forcément le campus te fait adopter des comportements peut-être un peu différents de ce que tu avais avant.
Est-ce que vous revenez à la réalité quand vous revoyez vos potes d'avant? Est-ce que vous avez une sensation de différence?
Non, très faible.
Franchement, très faible, hyper faible. Les seules choses qui changent, c'est vraiment juste quand j'utilise du vocabulaire d'HEC avec des potes en dehors et que je me dis, ah purée, je pourrais vraiment comme un matrixé. Ouais. Mais en dehors de ça.
T'as dû expliquer l'expression tunnel?
Non, ça va. Ça va.
En vrai, ça c'est assez imagé, les gens comprennent bien.
Moi, j'avais dû l'expliquer, mais en vrai, c'est pas.
Mais c'est plutôt les. Je me quantifie, je me qualifie, ça, je le dis tout le temps. Et, et ça, pour le coup, les gens comprennent pas. Mais après, en dehors de ça, enfin.
Non, tu fais des gros taquets à tes potes, en vrai.
Je reparle souvent de JM. Mais non, en dehors de ça, vu que je suis pas hyper matrixé, en vrai, je suis pas. Y a pas une grande diff quand je rentre, quand je vois mes potes hors campus.
Ok, ouais, moi non plus. Je pense qu'en vrai, ça nous a tous un peu changé notre comportement, enfin, notamment en première année quand t'arrives, etc. Genre, t'es vachement dans la matrice, mais après, bah, le fait de partir en JEB de 1 et aussi les vacances d'été, ça a créé un gros trou qui a fait qu'en fait, on a quand même un gros retour à la réalité et tu reviens en deuxième année un peu plus posé. Et, du coup, non, ça affecte pas ton identité profonde de vivre sur le campus, je trouve.
Pour le coup, la JEB fait un bien immense là-dessus. Et en vrai, il y a pas mal de gens qui sont restés au S2 à HEC qui sont. Pour le coup, je pense, ont plus changé par rapport.
J'en fais partie, j'ai pas tellement changé, j'ai l'impression. J'espère.
Après, pas personnellement de toi.
après, faut se dire, dans tous les cas, genre, on reste pendant 2 ans ici, donc dans tous les cas, on va changer. Oui. Après, c'est peut-être juste qu'aussi on grandit et que ouais, forcément, en tant que moi, tu changes.
Ouais. Et vis-à-vis de notre relation avec les femmes, pour en revenir au sujet de ce podcast, est-ce que ça a changé quelque chose?
Un peu. Moi, je trouve un peu, moi, ça m'a grave fait du bien parce qu'en vrai, quand j'étais au lycée, etc., ou même en prépa, tu sortais un peu plus pour aller choper des meufs, etc. Et quand je suis arrivé sur le campus, bah, en fait, j'ai vraiment juste eu envie de kiffer avec mes potes et tout. Et du coup, bah, voilà, tu vois, genre maintenant, quand je sors sur le campus, c'est beaucoup plus pour aller me taper des bars avec mes potes que pour aller choper des meufs.
Alors, c'était son unique objectif.
Pensez-vous que les hommes sont moins sensible que les femmes?
Non.
Non, peut-être qu'ils le montrent moins, mais je pense pas qu'ils soient moins sensibles en soi.
Ouais, non, je pense pas non plus.
Mais oh, c'était un peu la question piège, ça dit.
Ouais, après, je pense que les hommes sont plus facilement conditionnés à penser qu'ils sont moins sensibles que les femmes. Et du coup, ils se convainquent eux-mêmes d'être moins sensibles que les femmes.
C'est beau ce que tu dis.
C'est beau. Ouais, mec.
Vous aimez ce conditionnement? Vous voulez changer? Sandrine Rousseau vient à HEC le 6 février.
Bah, en vrai, moi, je sais que les mecs montrent presque jamais leur sensibilité. En tout cas, dans un espace public ou auprès de gens, auprès de leurs potes ou quoi. Mais je pense pas qu'il y ait une immense différence entre les mecs et les meufs sur ce point de vue. Et en vrai, c'est juste... Un mec, comme dit Mika, on lui a appris à plutôt cacher ses émotions-là pour montrer qu'il est fort et tout. Et la matrice en début d'année n'aide pas à ça. Mais je sais pas, pour moi, il n'y a pas de diff.
Moi, j'ai l'impression qu'on apprend quand même aussi aux filles à cacher leurs émotions.
Ouais, mais on leur apprend plus. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on leur apprend plus à parler entre elles de ce qu'elles ressentent, etc. Elles communiquent beaucoup plus sur ce genre de sujet. Oui. Là où nous, on communique sur d'autres sujets qui sont peut-être tout aussi importants. Mais...
Et moi, je trouve que, dans l'absolu, cacher ses émotions aux gens, c'est pas forcément hyper grave. On s'en fout. Enfin, si tout le monde pense que t'es insensible, c'est pas forcément hyper grave. faut juste que toi tu sois conscient que t'es pas juste invincible, tu vois. Parce que du coup, si toi aussi tu penses qu'en vrai t'es pas sensible et que quoi qu'il arrive, bah t'auras jamais de soucis, bah il y a peut-être des problèmes que t'aurais pu régler que tu régleras pas par souci de, bah, d'incompréhension parce que t'as pas compris qui t'étais en fait.
Mais même vis-à-vis des autres, si tu montres trop, enfin si tu persistes à faire croire aux gens que tu ressens rien, enfin que t'es insensible à des trucs, même eux à la fin ils finissent par plus trop comprendre qu'est-ce qui te touche ou pas, donc ça peut poser problème, moi je trouve aussi dans tes relations d'amitié. Genre.
Et vous, quand est-ce que vous vous confiez du coup? À qui plutôt vous vous confiez?
Mes meilleurs potes.
Ouais.
En vrai, qui d'autre? Moi pas trop, même Mif en vrai, même pas trop, mais j'ai un frère jumeau, pas trop mon frère jumeau aussi. Mais ouais, les potes sont là pour ça, on dirait.
Mais de fou, même les potes meufs sont hyper importantes là-dessus parce qu'elles apportent un regard extérieur et du coup, même peut-être parfois un regard un peu plus sensible aussi, comme elles sont plus habituées à parler de ce genre de sujet, c'est très appréciable d'avoir ce genre de discussion.
Mais c'est la clémentie. C'est la clémentie.
On a répondu à la première question.
Votre meilleure technique de drague?
Alors là, mec, j'ai aucune technique fixe de drague, genre c'est tellement pas en mode ok, j'ai cette technique que je vais répéter chaque soir et ça marche ou ça marche pas, alors non vraiment.
Mec, un automatique.
Vraiment, c'est... Là, j'ai pas de technique de drague en soi.
Vous dansez bien?
Très mal.
Super mal, mec. Super mal.
Très 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 mal.
Ça va. ça va.
Est-ce que tu joues ta vie quand tu couches?
Plus du tout. Je pense que c'est un truc qui... J'ai eu cette discussion il y a 3-4 jours, du coup c'est marrant. Je pense que c'est un truc qui, au départ, en tant que garçon, t'as l'impression qu'il faut surperformer et tout. Et moi je sais que ma vie sexuelle s'est totalement libérée au moment où en fait je me suis dit, mais en fait, gros, t'es con de penser comme ça. Faut juste te dire, bah là tu passes un bon moment avec la meuf. Et c'est à ce moment-là où en fait, c'est trop bien et que tu commences à vraiment kiffer toute ta vie sexuelle, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord pour le coup, mais... En vrai, c'est surtout au début où tu... Ouais.
Mais tu te mets une pression tout seul, en fait, au début.
Enfin, tu te mets une pression tout seul, les gens autour aussi t'ont mis une pression.
Vous êtes des canards?
Moi, pas du tout.
Non.
Ça dépend, mais en général, non.
On n'a pas fait de point sur votre situation actuelle, c'est quand même assez intéressant parce que ça influence, je pense, en partie la réponse aux questions.
Ouais, c'est vrai. Vas-y, Mickaël, commence.
Moi, célibataire.
Célibataire aussi.
Moi aussi.
Célibataire, ça influence en partie, je pense, la réponse aux questions.
Ouais, je déteste tellement les gens qui sont trop canards avec leur meuf que je pense que je me forcerais de ne pas l'être et je me rendrais vite compte si je suis trop.
Ouais, je me détesterais si je l'étais.
Mais pour vous, ça veut dire quoi, canard?
Ouais, canard, c'est. Bah,
genre t'es assez botte et tu fais tout ce qu'elle veut, etc.
Je
peux dire ça,
mais c'est pas soumis,
mais c'est sûr.
Ok.
Genre t'abuses. En fait, tu sais, genre, il y a genre, ok, c'est ta meuf et du coup, bah, tu te comportes bien avec elle, t'es gentil avec elle,
etc. Etc.
Ça, c'est tout à fait normal. Il y a être un canard et là, c'est vraiment, je lui envoie des messages tout le temps, cœur, mon bébé, je t'aime trop, c'est bon.
Plus, tu fais un peu tout ce qu'elle veut que tu fasses sans te poser trop de questions.
Oui, bah à ce moment-là, c'est pas forcément bien d'être un canard parce qu'en plus, ça crée une relation de force dans la relation et ça déséquilibre tout le couple. Quoi. Mais,
Il n'y a pas de rapport de force dans un couple? De fait, il y en a des rapports de force.
De fait, il y en a. Après, derrière, je pense que ça le meilleur moyen, c'est de s'épanouir ensemble et pas d'essayer de diminuer un maximum ces rapports de force parce qu'en vrai, quand ils existent trop, il y en a forcément un qui souffre plus que l'autre. Quoi.
Ouais, c'est un truc sain. Donc, dans tous les cas, à la fin. C'est pas viable sur le long terme d'avoir des rapports de force trop forts, que ce soit de l'un côté ou de l'autre.
Mais les rapports de force changent aussi.
Ouais, mais dans ce cas-là, ça se transforme en une sorte de guerre où chacun cherche à prendre le dessus.
Non, un rapport de force, c'est pas une guerre, je pense. Peut-on rester fidèle à la même femme toute sa vie? C'est compliqué de dire ça à 22 ans, mais...
Moi, je pense que oui. C'est peut-être un peu idéaliste, mais oui, en vrai, c'est... Enfin, le concept de femme de ta vie, en vrai... Il existe pour moi. Donc à partir du moment où tu la trouves, si tu la trouves, tu peux rester fidèle à elle toute ta vie.
Mmh. Pour moi, la fidélité, ça dépend pas du tout de la fille avec qui t'es, ça dépend juste de ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Mais en soi, tu peux tromper la femme de ta vie, même si tu l'as trouvée.
C'est après ce que tu veux ou pas?
C'est-à-dire que tu peux être avec une fille, par exemple, je sais pas, t'es avec ta femme depuis genre 15 ans, tu l'aimes plus, mais ça ne veut pas forcément dire que tu dois la tromper. Tu vois, tu peux dire, bah, je vais rester fidèle quand même à cette femme parce que c'est ma femme.
Ouais, c'est une question de valeur aussi.
C'est une question de, ouais. De valeur et de ce que tu veux être, j'ai envie de dire. Mais dans l'absolu, moi, je trouve que ça dépend beaucoup moins de la fille avec qui t'es que de, bah, ouais, comme j'ai dit, de tes valeurs et de ce que tu penses et ce en quoi tu crois, tu vois.
Du coup, si tu trompes la femme de ta vie, tu penses que c'est la femme de ta vie?
Moi, je pense que tu peux tromper la femme de ta vie en pensant que c'est la femme de ta vie.
Ouais, pour moi, ça change pas. En fait, ça dépend. Encore une fois, ça dépend pas de la femme, ça dépend juste de toi. Mais parce que du coup, ça voudrait dire qu'une fille qui te trompe pas, c'est forcément la femme de ta vie. En vrai, pas forcément, tu vois. Genre.
Non, mais on peut détacher les vies sexuelles et les vies sentimentales, de mon point de vue, je pense. C'est pas la même chose.
Jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un moment où il va y avoir un souci dans ta vie sentimentale si ta vie sexuelle est.
Non, pour moi, si tu veux rester fidèle, tu resteras fidèle.
Oui. Si tu peux tromper la femme de ta vie, mais que ça reste la femme de ta vie, c'est que vie sexuelle et vie sentimentale sont détachables.
Ouais, après, je sais pas si tu resteras l'homme de sa vie.
Ouais. On est pas obligé de le savoir.
À la chef.
C'est vrai.
Encore une fois, c'est toi et tes valeurs. Mais.
Qu'est-ce que tu me caches?
Mais pour moi, si tu veux rester fidèle, tu le resteras. Et si tu veux tromper, enfin, si tu considères que tromper, c'est. Genre, c'est pas si grave que ça, bah tu tromperas. Mais ça dépend très peu de la meuf.
Vous avez déjà trompé votre meuf?
Non.
Ouais, moi ça m'est déjà arrivé.
Moi non.
Est-ce que vous êtes pressé de trouver la femme de votre vie?
Non.
De fou. Voilà, pas plus.
Il est juste en chien, ça veut
dire. Grave pas, gros.
T'as trompé quand tu as entendu la vie avec toi.
Quoi? Non, mais c'est juste, je considère avoir vécu assez d'expérience, etc. Enfin, tous les trucs que je voulais faire, je les ai faits.
T'as 21 ans, gros.
Ouais, je sais, mais du coup, genre, en vrai, je me considère prêt là pour avoir une vraie relation cool et tout. Donc, envoyez-vous des. Je suis en roue libre, gros, c'est énorme. Non, mais du coup, ouais, voilà, genre, en vrai, je me considère prêt pour avoir une vraie relation. Donc, autant avoir une vraie relation avec la femme de ta vie plutôt qu'une vraie relation avec quelqu'un avec qui ça va potentiellement se finir, quoi.
Bah après, moi je me considère aussi prêt pour une vraie relation, mais est-ce que je me dis pas c'est forcément la femme de ma vie, genre. Et je me dis pas si c'est pas la femme de ma vie, c'est grave.
Oui, mais moi non plus. Après,
est-ce qu'elle existe vraiment, la femme de ta vie?
Puis en plus, est-ce que tu le sais comme ça, tu vois?
Je pense que tu le sais juste à la fin de ta vie, on peut avoir un débat parallèle.
Est-ce qu'on peut avoir un débat parallèle? Ouais, hâte, non, en vrai, hâte, non. En vrai, je pense que de manière générale, avoir hâte d'avoir une relation. Fait que bah, tu vas précipiter et que tu vas généralement réduire tes standards en disant ah bah tiens, telle fille elle a la même vie que moi, on a tel point commun, c'est forcément la femme de ma vie, alors que bah pas forcément. Donc en vrai, je pense que juste attendre, et voilà, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, mais allez, je l'année continue. Hein.
Bah ouais, c'est ça, non, mais ça, complètement.
Mais non, pas pressé en vrai.
Pas pressé, mais attentif. J'adore, mec.
Pas mal.
Est-ce que vous êtes totalement débarrassé de la masculinité toxique?
Je sais pas ce que ça veut dire, la masculinité toxique.
Bah, je sais pas, c'est. Tu appelles à Google, vas-y.
Exemple de masculinité toxique: les hommes ne pleurent pas, les hommes portent des vêtements bleus et jouent au football. Les hommes ne sont pas des pédales mouillées, des fillettes, je sais pas quoi. Un homme qui est co-responsable est un homme faible.
Éco-responsable?
Qui est co-responsable.
Ah, j'ai compris, éco-responsable.
Non,
je dis qu'il est raccord.
Je pense que ces comportements reviennent dans des grands groupes de mecs où tu veux pas, genre, parce qu'il y a, pour le coup, moi je trouve qu'il y a des mecs qui ne l'ont pas perdu ou qui ont toujours une bonne partie de masculinité toxique.
Tu parles de la chaussée?
Ouais, même pas. En vrai, je sais.
Même en général.
D'autres groupes, même au lycée.
Ouais, forcément partout.
Mais ouais, c'est des comportements que tu peux retrouver, enfin, toi, que tu peux réavoir dans des contextes particuliers. Pour pas, entre guillemets, en tant que mec, genre, perdre la face, tu vois, si tout le monde fait son bourrin en mode. Voilà, alpha, tu t'adaptes un peu, mais. Je sais pas si en tant que tel, non.
Du coup, tu penses que c'est plutôt la pression du groupe, d'un groupe de mecs qui s'auto-alimentent dans cette
masculinité toxique? Vous l'avez déjà constaté, ça, je sais?
Oui.
Ouais, ça arrive, en vrai, je connais.
Vous avez des exemples?
Ouais, c'est éclater des écotasses sur le front, par exemple. Je sais pas si on peut considérer ça comme de la masculinité toxique, mais en tout cas, c'est un truc un peu débile qui fait que qui est auto-alimenté par le groupe, quoi, par exemple.
Ou alors des concours de qui boit le plus vite, quoi, un truc comme ça.
Après, ça, pour moi, c'est.
Parce que c'est toxique,
il y a même des filles qui s'en font. Enfin, ça pour moi, genre.
Après, là où ça devient toxique, c'est que les gens peuvent en flex beaucoup. Moi, je trouve.
Bah, ça, oui, pour le coup, oui.
Là, ça peut devenir toxique, mais après, non.
Après, là, ça devient un petit peu le prep, du coup.
Ouais, totalement.
C'est vraiment. Venez aux amphipoles prep. Et c'est là que je m'ouvre dans le podcast. Prend tout son sens.
C'est là où vous pouvez également rencontrer Mickaël.
Bon, ben merci à tous les trois d'être venus. Il y a Pauline qui vient de nous sortir. Ouais. J'espère que ça aura été intéressant, qu'on aura répondu aux questions.
Bah, merci à vous.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas que Tom Tonner cherchait
la femme de sa vie.
Surtout
que je venais stream. La femme de sa vie, ça y est. Attentif, mais pas sur
Strastern.
Strastern.
Sur Spotify.
Sur toutes les plateformes, voilà.
Par Bloom.
Bon, mais merci à tous et puis on se retrouve à la prochaine de Melting Pot.
Merci beaucoup, ciao.
Salut les gars.
Salut la jeunesse.